Que faire comme sujet de podcast qui n'ait pas déjà été fait? Qui plus est par des gens bien plus compétents sur la question que moi. C'est ce dilemme qui m'a poussé à entamer un podcast sur le seul et unique sujet dont je suis le seul à avoir la pleine maîtrise. Non seulement j'en possède une connaissance encyclopédique, mais je peux sans prétention déclarer haut et fort en être le seul expert au monde. Vous l'aurez peut-être compris, ce sujet, c'est moi-même. Mais rassurez-vous, je suis passionnant. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce podcast qui se veut particulier à plus d'un titre. Je suis passionnant est un podcast monogame où je ne m'adresse qu'à toi mon cher auditeur. Je me permettrai donc de te tutoyer, ce qui sera plus sympa, mais n'y vois pas de familiarité de ma part, je resterai parfaitement courtois. Avec un titre comme Je suis passionnant, je me fixe d'office un handicap, car j'ai rapidement intérêt à susciter ton attention, à te faire rire ou plus globalement à te faire passer un bon moment. Je dis pas que c'est gagné, mais en tout cas, je te propose une approche très sincère où je te parlerai de choses et d'autres à travers le prisme de mes opinions. Sois cependant rassuré, j'ai parfaitement conscience que tu risques de me prendre pour un égomaniaque qui pense avoir la science infuse avec une telle approche. Laisse-moi juste le temps de ce programme pour essayer de te convaincre. Tu verras que toute cette esbrouffe, ce n'est que de la gentille provoque. Je suis Flashou, podcasteur indépendant, je suis passionnant, et aujourd'hui, je suis raciste. Tu pourras me dire que j'ai pas fait les choses à moitié avec un titre pareil, et évidemment, tu te doutes bien que je ne vais pas commencer à raconter que je déteste noir, arabe, chinois et autres ethnies qui pourraient te passer par la tête. Je voudrais plutôt te parler de mon racisme intégré. Peut-être qu'avant ça, je vais te planter le décor. Moi, je suis un pur blanc cis hétéro, le niveau 1 de la vanille, plus neutre tu meurs. Alors j'ai bien une ascendance un poil exotique du côté de ma mère qui est espagnole, mais si tu regardes comme ça, vite fait, je suis le baptou typique né aux portes des années 80 qui a grandi avec des slogans comme « touche pas à mon pote » ou « black blamber ». À l'école, j'avais dans ma classe des gamins de plein d'origines différentes, mais j'avoue que j'étais surtout pote avec des gamins comme moi. Ceci dit, j'ai eu un pote au collège qui était d'origine indienne, qui avait la peau très foncée et ça n'a jamais été un dilemme pour moi. J'ai même eu des petites camarades de classe, marocaines, algériennes, africaines, sans que ça suscite grand-chose en moi, hormis ce que les jeunes filles suscitent chez un jeune garçon tourmenté par les émois de l'adolescence. Donc à ce stade de l'histoire, on peut très logiquement dire « Bah non, tête de pioche, t'es pas raciste ». Sauf que c'est plus compliqué. Alors déjà, il faut être très clair sur une chose, c'est pas parce qu'on sait ce que c'est que le racisme et qu'on n'est pas d'accord avec, qu'on dit que c'est pas bien, qu'on n'est pas raciste, même dans ses propos. Comme je te le disais au début, le racisme dont je veux parler, c'est celui qui est intégré. Celui qui est planqué un peu partout autour de toi, et qu'en tant que gamin, t'étais pas foutu de capter. Je te l'ai dit, moi je suis un môme des années 80, et pendant des années, je me suis goinfré de biscuits bambou là, sans jamais me poser de questions sur la représentation du petit gamin noir sur le paquet, ni sur le nom absolument horrible du produit. Non, pour moi, bah, le gamin, s'il était noir, c'est parce que c'était du chocolat, et puis bah, Bamboula, je me disais, bah, c'est un nom de chez lui. Voilà, c'est parce qu'il est étranger, il a un nom étranger. Dans ma tête, c'était parfaitement normal. Et de la même manière, j'employais des expressions, travail d'arabe, pour désigner une tâche qui est mal faite, ou partir en juif, pour évoquer une espèce de traîtrise. Mais jamais dans ma tête, je me suis dit que c'était raciste. Je me disais, comme beaucoup de gens, je pense, bon voilà, c'est comme ça qu'on dit, c'est une expression. Et les expressions, on les remet pas forcément en cause. Sauf que, et oui, comme je le disais, c'est plus compliqué. Le truc, c'est que ces expressions, déjà, elles vont façonner ta façon de penser les choses. Et petit à petit, très insinueusement, elles vont créer des images dans ta tête. En fait, on va se construire autour de ce langage, autour de ces idées qui sont véhiculées. Et on va se construire avec des références de la télé. Et forcément, dans les années 80, Guy les bons tuyaux, c'est certainement pas lui qui jouera le rôle du flic. On a des tas de clichés sur le grand noir sportif, mais qui est un peu con-con. Et c'est tout autant les premiers albums de Tintin que les biscuits Bamboula qui vont te mettre ça en tête. Quand t'es gamin, tu fais pas le tri, t'assimiles les infos, tu te poses pas de questions. Et même les clichés positifs qu'il peut y avoir, c'est quand même une forme de racisme. Je parle du noir qui est brillant en sport, mais c'est un putain de cliché. C'est comme de dire que les enfants chinois ils sont hyper brillants ou que les japonais ils sont disciplinés. C'est se construire une façon de voir le monde basée sur ce à quoi ressemblent les gens ou sur comment ils parlent. Un accent, ça peut complètement casser la crédibilité de quelqu'un. Bah oui, parce qu'un accent chantant, c'est très sympathique, c'est charmant à l'oreille. Mais est-ce qu'on va trouver ça sérieux? Est-ce que dans ta tête, il n'y a pas une dissonance cognitive directe qui se met en action parce que ton éducation va te dire « Non, l'accent du monsieur, c'est très rigolo, mais il va falloir arrêter de parler d'astrophysique. » Et en fait, l'accent... Le truc, c'est que c'est toujours l'autre qui l'a. Parce qu'en fait, le racisme, c'est un rapport à sa normalité. Par définition, on va toujours se considérer comme étant la norme, le point zéro, qui est comme les autres, alors dans le bon sens du terme. Moi, d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis défini comme le niveau zéro de la vanille, enfin le niveau 1. C'est, je me considère, à tort, comme un référentiel neutre. Et du coup, quand quelqu'un n'est pas comme ça, qu'il est différent de soi, on va se dire... Lequel de nous deux est le plus proche de la norme? Et donc c'est en ça que je me déclarais comme étant la vanille, parce que je pars du principe, peut-être à tort, je pense sûrement à tort, que ce qu'on considère comme neutre, en tout cas en France, c'est bah, le type blanc, avec le teint de bidet, les cheveux bruns, voilà. Et c'est ça qui fait qu'on va avoir des cons, qui vont reprocher à une nana de pas s'appeler Corinne, coucou Rico, hein, celle-là elle est pour toi ma gueule, alors qu'en fait ça ne fait pas sens, c'est pas ça qui va créer notre identité. D'ailleurs, je sais pas si t'as déjà remarqué que tous ces trucs-là, en fait, ce rapport à définir les autres, en fait ça vient de gens qui sont pas concernés par ça. Les clichés et toutes les valeurs qu'il y a autour, bien évidemment, c'est pas un Asiatique, c'est pas un Chinois qui va te dire « Nous, les Chinois, on est super bosseurs. » Et tu noteras au passage que je me suis bien gardé de faire mon Michel Leb, alors que bah, c'est hyper hypocrite de ma part, parce que petit 1, je suis plutôt fort en accent, et petit 2, j'aime bien en faire. Tu verras qu'il n'y a pas trop de montage dans cette émission. Donc, en fait, il a une grande probabilité que si je m'amusais à faire un accent, ce serait un accent qui te concerne, parce que, bah oui, depuis 5 minutes, je te dis moi, mais au final, le racisme, c'est pas moi qui le subis, c'est peut-être plutôt toi, peut-être que toi, auditeur, tu es noir, asiatique, maghrébin, juif, que tu as une origine qui se voit physiquement, ou qui s'entend quand tu parles, et que à cause de ça, tu t'en ramasses plein la gueule parce que les gens autour de toi sont bien cons. Et n'hésite jamais à te réduire à tes origines. Je vais même être plus précis, je devrais dire, n'hésite pas à te coller des stéréotypes basés sur ce qu'ils supposent être tes origines. Parce que c'est pas parce que tu t'appelles pas Corinne, mais Sofiane, ou je sais même pas si Sofiane c'est un nom de fille ou de garçon, désolé. Voilà, tu vas véhiculer un cliché, et pourtant bah, tu es né en France, tu es peut-être même de la deuxième ou troisième génération. Mais on va te demander, alors le Maroc c'est bien ou comment on dit bonjour en mandarin si tu as plutôt les yeux bridés et les cheveux raides? En fait, on va te coller un stéréotype qui sous-entend que tu es forcément à l'image de ce que tu renvoies. Tu ne peux pas être un Français si tu n'es pas un mec blanc, tu ne peux pas être d'origine asiatique si tu es blanc. Ça marche aussi dans l'autre sens. Alors, dans mon exemple, hein, j'ai choisi des questions soft hein, quand je disais ça, parce que c'est mon niveau de racisme à moi. C'est-à-dire que j'irai pas interpeller des gens dans la rue en leur disant « sale bougnoule, casse-toi de mes rues » ou autre. J'en suis pas à ce stade-là, Dieu merci, Inch'Allah. Mais là, par exemple, ce que je viens de faire, est-ce que c'est pas un peu raciste de sous-entendre que la tournure de quelqu'un qui serait d'origine maghrébine, ce serait de balancer ça? C'est ce que je qualifierais de racisme de carte postale, où on va partir du principe que les gens, parce qu'ils sont d'une certaine origine, ils ont un peu un pactage, un ensemble de compétences. Moi, je vais reprendre mon exemple. Je suis à demi-espagnol, Donc il y a plein de choses qui viennent de ça. J'ai la double langue, je parle le français, je parle l'espagnol, voilà, normal. J'ai deux, trois petits trucs en plus, je sais rouler les R, bon, ça, je sais que ça va avec le langage. Je sais ce que c'est que le Lomo, je peux regarder certaines séries en VO, hein, La Casa de Papel, Violetta, tout ça. Je connais Madrid, voilà, je peux aller dans les pays hispanophones relativement tranquillement. C'est plutôt lié à la langue, hein, ça inclut pas grand-chose. Peut-être si le côté un peu sanguin... C'est pas grand chose, mais voilà, c'est une double culture, c'est des trucs positifs, c'est mon pactage. Le truc, c'est que ça m'a jamais empêché de louer un appart, d'obtenir un crédit, d'avoir une promotion à mon boulot, c'est même exactement le contraire. C'est parce qu'en fait, je parlais plusieurs langues que j'ai pu avoir des promotions et que ça m'a aidé à progresser professionnellement. Mais c'est pas forcément équivalent pour tout le monde. Et le racisme aussi, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est un peu la roulette, ça veut dire que. On peut être un étranger et ça passe, et on peut être un étranger et ça passe pas du tout. Et voilà, moi j'ai la chance d'avoir un racisme qui ne gêne pas. On va avoir une forme de différenciation vis-à-vis de moi si on sait que je suis un peu d'origine espagnole, mais en France en tout cas ça n'ira pas plus loin. Alors du coup, je reviens à mon histoire de pactage. Si je croise une personne que je vais supposer étrangère, par son apparence ou par son nom, parce que voilà, y a des choses qui vont m'alerter, ben, je vais avoir le réflexe à la con de me dire « Ah bah tiens, mais cette personne, elle a... super, elle a des trucs qui sont différents de moi, parce que je vais partir du principe qu'elle est différente, du fait de cette différence. » Et moi, je vais dire que c'est pas grave, je vais me dire que c'est pas grave, mais que ça crée des choses intéressantes qu'on va pouvoir échanger et tout. Je te raconte une petite anecdote par rapport à ça. Moi, il y a quelques années, j'ai une amie qui est américaine qui est venue en France. Elle n'était jamais venue en France. Je l'ai invitée un été. Ça faisait très longtemps qu'on correspondait ensemble. Et je lui ai servi de guide. J'ai adoré ça parce que c'était super de voir qu'on avait des différences, qu'elle, elle appréciait certaines choses et que moi, bah, pareil, je découvrais indirectement à travers ses réactions. C'était vraiment sympa. Mais il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on sentait bien qu'on n'était pas pareil, mais c'était pas grave. Et c'est ça le truc, c'est que, bon bah voilà, je pars du principe, par exemple, que une Américaine, forcément, ne va pas résister devant des pâtisseries à la française, parce que c'est du racisme, mais les trucs français, c'est forcément mieux en matière de bouffe, alors que si ça se trouve, il existe aux États-Unis des pâtissiers exceptionnels et qui nous mettent la pige, c'est un cliché. Alors c'est on va pas considérer que c'est du racisme parce que c'est pas trop méchant, mais on est quand même sur ce territoire un peu gris. Alors je vais en revenir à mon point initial. Le racisme, c'est pas moi qui le subis, en tout cas pas en France. Faut pas me parler de racisme anti-blanc. Ça, c'est des cons qui disent ça. Je pense parce qu'ils sont jaloux de pas pouvoir bénéficier d'associations qui les aident à lutter contre quelque chose qu'ils subissent pas. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, ces gens-là... ils s'en prendraient à des gens qui ont des handicaps parce qu'ils sont pas eux-mêmes handicapés, du coup on fait rien pour eux, parce qu'ils en ont pas besoin, mais c'est pour eux c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils en ont pas besoin qu'on doit pas faire quelque chose pour eux. Bref, être blanc c'est pas un truc qui va faire qu'on est victime spécialement dans les quartiers mal famés. Si on va à un quartier mal famé, c'est juste parce qu'il est pourri, c'est sociologique, c'est économique, c'est parce que les gens sont pauvres qui volent. C'est pas du tout parce que intérieurement ils se disent ah, un blanc on va le voler parce qu'il est blanc, c'est de la connerie. Alors ça excuse pas le crime, moi je vais pas excuser les connards qui m'ont tiré mon portable il y a quelques jours, mais ils m'ont pas ciblé parce que je suis blanc, ils m'ont ciblé parce que j'avais un truc qui les intéressait. Et pourquoi j'avais ce truc là parce que j'avais les moyens de me le payer, et parce que le fait d'être blanc en fait me facilite la vie pour avoir un job, pour avoir un bon salaire et pour me payer ce genre de truc. Donc oui, me voler, c'est pas bien. Il faut pas. Arrêtez de me voler. Mais est-ce que c'est parce que je suis blanc ? Non. C'est de la concomitance, en fait. Bref, bon, je dérive un peu sur le sujet, mais voilà, le fait d'être blanc ne fait pas qu'il existe un racisme spécifique anti-blanc. C'est débile. On ne dit pas, oh là là, c'est des propos de raciste anti-noir. C'est raciste, point. Alors oui, on peut se faire traiter de sale blanc, et c'est juste du racisme. Voilà, il peut y avoir une personne noire ou un asiatique ou un maghrébin ou j'en sais rien qui va s'en prendre verbalement à moi, pour Dieu sait quelle raison. Et c'est juste, je vais mettre des guillemets, hein, je fais des gestes avec les doigts, c'est juste du racisme. C'est le fait qu'on n'aime pas les gens parce qu'on considère qu'il est comme ci, il est comme ça. Après, je pense qu'il y a une grosse différence entre avoir des clichés parce que toi-même tu es oppressé et qu'au bout d'un moment tu as envie de renverser la vapeur parce que bah, c'est une espèce de réflexe de défense plutôt qu'un truc qui est quasi culturel. Je pense pas qu'il y ait culturellement un racisme qui fait que les personnes noires, maghrébines. Alors j'ai un peu l'air de tourner que autour de ces personnes-là, mais il y a plein d'autres communautés hein, qui ont ça. Désolé si j'ai l'air d'être réducteur. Je ne les oublie pas en tout cas. C'est juste que je peux pas citer tout le monde à chaque fois. Mais voilà, on peut quand même avoir un racisme systémique quand ça commence à rentrer culturellement dans le langage. Je ne pense pas que culturellement dans le langage des autres communautés, il va y avoir quelque chose de spécifique aux blancs. Alors, il va y avoir des ah, Blanche-Neige, bah ouais, pareil, nous on va dire Bamboula, voilà. Voilà, on est à match nul. C'est pas l'un plus que l'autre. Et il y a des extrêmes qui récupèrent ces discours-là de anti-blanc, anti-machin. Quand on commence à devoir préciser le type de racisme qu'on subit, c'est qu'on considère que spécifiquement il n'est pas pareil. Oula, attention, moi je suis pas victime de racisme. Je suis victime de racisme anti-blanc. Sous-entendu, c'est pire. Sous-entendu, c'est vraiment, il y a une façon de le faire qui est différente. Et alors, je vais peut-être me contredire, mais finalement, si ça devait exister, le racisme anti-blanc, je pense que sur l'échelle des violences faites, elle serait quand même moins gênante. Parce que le racisme anti-blanc, oui, c'est un racisme de la rue, c'est de l'incivilité, mais c'est pas quelque chose qui va t'empêcher d'avoir un appart. C'est pas quelque chose qui va t'empêcher d'avoir un crédit, de passer un entretien et d'avoir un job. Ça va pas être ce genre de problème. Alors si je résume, hein, parce que depuis tout à l'heure, je parle d'un problème bah, que je subis quasiment pas, dont je suis plutôt la source depuis que je suis tout petit, que je le veuille ou non. Oui, même si j'ai pris conscience de ça, hein, comme je le disais, ça n'empêche pas que les idées, je les ai implantées dans ma tête. Et que depuis tout le temps, ça m'a laissé des automatismes qui sont pas forcément jolis jolis. Alors si de base, je suis pas très virulent envers les autres, hein, quoi qu'il arrive, je garde quand même des recoins, dans les recoins de mon langage, des tournures, des expressions qui peuvent faire mal aux autres. Et ça rejoint ce que je disais quand j'évoquais l'idée que c'était pas moi qui subissais ça. Que je sois de bonne foi en fait en disant que c'est intégré et que je le fais pas exprès, le problème c'est que ça ne change pas le ressenti des gens quand ils m'entendent. Parce que le plus souvent, ce seront des gens que je ne connais pas qui vont recevoir le message et qui vont en pâtir, justement parce qu'ils sont assis à la table d'à côté au restaurant, parce qu'ils m'entendent dans la rue. C'est fugace, mais alors je vais pas porter le poids de toute la susceptibilité du monde sur mes épaules. C'est surhumain de se maîtriser sur des idées inconscientes qui sont inscrites très très profondes dans mon éducation, dans ma culture. Voilà, quand on fait des blagues sur les Belges, ça aussi, c'est une forme de racisme dans son genre. Peux pas m'en détacher facilement. Par contre, ce que je peux faire, c'est avoir conscience que ça existe, ne pas me réfugier derrière la sémantique en disant « Oh là là, mais c'est bon, c'est pas ce que je voulais dire. » C'est peut-être pas ce que je voulais dire, mais bah, si j'ai offensé la personne, c'est qu'elle, en tout cas, c'est ce qu'elle a entendu. Alors, minimum, c'est peut-être d'écouter l'autre, me remettre en question, ne pas remettre en doute l'offense, puis à partir de là, me demander qu'est-ce que je voulais vraiment dire? Quel était ce résidu d'automatisme qui a pourri mon message? Et puis, me dire que la prochaine fois, peut-être je tournerai ça autrement. Il faut que je te parle aussi d'un truc concernant le racisme, ce qui a été une expérience vraiment déterminante dans ma vision de la chose. Le truc, c'est que quand j'étais petit, j'étais méga fan du film Les Aventures de Rabbi Jacob. J'adore ce film, je l'ai vu des millions de fois. C'est vraiment le film le plus génial, déjà en tant que film en lui-même et en tant que son message. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'inverse du racisme intériorisé, en fait, j'avais jamais capté que ce film avait fait de moi une meilleure personne, qui avait fait de moi quelqu'un de plus tolérant. Parce qu'il y a tout dans ce film. C'est incroyable de richesse et de justesse. Et malheureusement, de nos jours, t'as quand même des mecs qui vont se revendiquer de l'humour de ce film alors qu'ils n'en ont pas compris un iota. C'est comme pour des proches ou Coluche, il y a des mecs qui te disent tout le temps, oh là là, on peut plus rien dire. Avant, regardez, c'était bien, on pouvait dire ça. Mais j'ai envie de leur dire, mais fermez-la, vous avez rien compris. Parce que ce qui faisait le talent de tous ces mecs, de des proches, de finesse, ils disaient des horreurs, ils disaient des choses vraiment terribles. Mais c'est parce que ils prenaient le rôle du méchant. Il se positionnait comme étant le fort duquel on va se moquer. Si je reprends Rabbi Jacob, le personnage de Victor Piver, c'est un industriel. Le mec, c'est pas juste quelqu'un qui gagne bien sa vie. Le mec, il est tellement riche, il a un chauffeur. Il va marier sa fille à l'église de la Madeleine à Paris. C'est un notable, un putain de bourgeois. Alors, il va gesticuler, il se choque quand il voit un mariage mixte au début du film, et tout le monde le regarde en disant, mais mec, qu'est-ce qui t'arrive? En quoi ça te choque? En fait, c'est lui l'élément incongru, c'est lui qui n'est pas à sa place dans notre société. Et toute la parodie de rabbin qui va jouer, c'est drôle, pas parce que oh, c'est drôle, c'est un rabbin, c'est juste parce que par sa bêtise et son ignorance à ne pas savoir comment endosser correctement ce rôle, il va se rendre ridicule. Alors je vous recommande, il y a une très très bonne vidéo qui parle de ça, qui analyse le film, qui est fait par le youtubeur qui s'appelle, enfin le vidéaste, je vais pas dire youtubeur, c'est pas bien, vidéaste Licarion Rock. Alors je l'attendais au tournant parce que bien évidemment moi c'est très touchy quand on parle de ce film, et je pense que je suis pas le seul. Et en fait voilà, il a fait une comparaison qui est très pertinente. Je citais tout à l'heure les gens qui se revendiquent du film, et il prend l'exemple de c'est Christian Clavier et puis je sais plus qui d'autre qui se revendiquent de la fameuse réplique Ah, Salomon, vous êtes juif. Et il l'explique très bien, et je pense que je lui dois une part de cette analyse. Hein. Très clairement, la différence avec les films de Clavier, puisque c'était pour la sortie du film, alors c'est pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est À bras ouverts. Où il se moque des Roms et tout ça. Le problème, c'est pas de se moquer, c'est de qui on se moque. Est-ce qu'on se moque du puissant ou du faible? Est-ce qu'on se moque de l'étranger parce qu'il est étranger, ou en fait on se moque de celui qui n'est pas capable de comprendre ce qu'est l'étranger et qui se ridiculise en le caricaturant très mal? Et là où le film est génial, c'est que alors le héros est détestable au début, on nous le montre vraiment comme quelqu'un de très mauvais sur plein d'aspects en plus, c'est-à-dire que c'est même pas que le racisme. Et cette illustration, en fait, elle montre bien que le personnage, de base, il a rien pour lui, on ne peut que le haïr, mais il a une rédemption, il y a un arc de rédemption tout le long du film, notamment quand il va commencer à voir les similitudes dans la scène de la synagogue, va se retourner vers Slimane et lui dit oh, vous avez vu? Ils disent Amen, c'est bien, c'est comme chez nous. Oui, je sais que cette réplique, je l'ai sortie dans une église. J'étais invité à un mariage. Il y avait ma mère. Alors j'avais 15-16 ans. Il y avait ma mère qui était là, très sérieuse ou haute. Et bon, moi, je m'emmerdais un peu. Et les gens dans la très catholique Espagne en train de prier et puis de dire Amen. Et moi, j'ai eu cette fulgurance du film parce que je trouve que c'est tellement innocent. C'était pas pour me moquer, mais c'était vraiment parce que c'est une réplique qui m'avait touché. De me dire, mais regardez, c'est pareil, on est pareil. Et là, le film montre bien ça. Alors évidemment, c'est pas quand j'étais gamin que j'avais capté ça, mais le jour où je l'ai vraiment compris plus tard, qu'il y avait tout ce truc de plus de force en fait dans les similitudes que dans les différences entre les cultures, c'était un choc, quoi. Et c'est comme si ce film que j'adorais, qui me faisait rire, il avait grandi avec moi. Et qu'il avait développé une sagesse supplémentaire, comme s'il avait mûri en parallèle de moi. Bon, alors qu'en fait, c'est juste que c'est moi qui, avec l'âge, je suis devenu un peu plus malin, que je comprenais un peu plus les choses, quoi. Mais il y avait vraiment dans l'idée de ce film, l'idée qu'on peut grandir, qu'on peut changer, même si on est la pierre des raclures, et qu'en fait, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Et je pense que c'est l'une des meilleures œuvres au monde qui va parler de racisme. Justement parce que ça parle de rédemption. On ne dit pas juste que machin est un connard parce qu'il est raciste, ou là là, c'est méchant. Mais on va lui permettre de changer, et on le fait sans pathos. Il n'y a pas de scène où De Funès va tomber à genoux en pleurant, en disant « Oh, j'ai été si méchant, oh, qu'ai-je fait? » Déjà, parce que ce serait ridicule ça, par rapport au ton du film, mais en plus, ce serait quelque chose de. Enfin, personne a des états d'âme comme ça. Parce que c'est graduel, et en fait, là où le changement du personnage est cool dans le film, c'est qu'il est graduel, c'est que ça commence par la transformation physique en se grimant, puis c'est le côté social, c'est-à-dire qu'il va dans le quartier des Juifs ou. D'ailleurs, non, il y a même une étape avant, c'est le langage, puisque quand il parle avec la vieille dame, il commence à essayer de prendre l'accent, essayer de trouver des manières de parler comme eux, et c'est du mimétisme, petit à petit, de devenir comme eux. C'est vraiment l'apparence, puis le langage, et ça finit par la croyance, puisqu'il se retrouve à la synagogue, et il va finir son parcours. J'y pense presque en même temps que je te le dis. C'est un parcours initiatique, c'est la quête du héros. D'ailleurs, le changement, ce qui est vraiment super, c'est qu'à aucun moment on a besoin de le dire. Le héros, il dit pas à un moment, ah ça y est, je suis plus raciste. Ça se fait par étapes. Et tout est résumé dans la scène de fin. Il est face au général, donc le futur beau-père de sa fille, blablabla, qui lui demande, ah oh, mais qu'est-ce que vous foutez déguisé en rabbin? Et on sous-entend que voilà, il vient à un mariage catholique habillé en rabbin, c'est ridicule, c'est pas adapté. Et la twist, le personnage de Finesse, bon, non seulement il assume complètement d'être habillé en rabbin, il fait oui, je suis habillé en rabbin, et alors? Et c'est plus un problème pour lui. Et en plus, il va prolonger sa découverte des similitudes. Il a fait le constat que, bah oui, on est pareil, en montrant que la femme du général, elle aussi, elle est habillée en rabbin. Il dit, bah oui, parce que vous avez un chapeau, c'est un Streimel, ça aussi, c'est un Streimel. Ah, j'ai des papillotes, elle a des papillotes. Et c'est, voilà, c'est lui, en fait, dans le dernier mouvement du film, qui devient ce que les autres personnages étaient vis-à-vis de lui au début. C'est-à-dire que c'est plus Victor Piver qui est le raciste qui va se plaindre des différences, ça devient le général. Alors, si on fait le truc, c'est un symbole très 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 conservateur, encore plus fort qu'un chef d'entreprise. Donc on monte d'un cran dans le racisme game, même si c'est cliché, je sous-entends pas que les généraux sont racistes ou quoi, mais à l'époque en tout cas, il y avait ce côté vieille France traditionnelle, etc. Et donc en fait, notre héros, lui, il a accompli sa quête. Si je garde toujours cette idée du voyage du héros, il revient enrichi de son aventure avec cette connaissance des autres, et du coup, bah, il devient en fait. En fait, c'est comme le policier au début du film qui comprenait pas ce qu'il y avait de mal dans le mariage mixte. Et bah, lui, maintenant, Victor Piver, ne comprend pas le problème qu'il peut y avoir à ce qu'il y ait ses amis juifs au mariage de sa fille. Et on peut même dire qu'il allait encore plus loin que les autres, parce que non seulement il accepte les autres, mais il les accepte à tel point qu'il les fait rentrer dans son monde. Et c'était vraiment fou, c'était vraiment extraordinaire. Et je pense qu'en tant qu'individu, ça m'a vraiment, vraiment transformé de voir les aventures de Rabbi Jacob. Voilà, c'était le premier épisode de Je suis passionnant. J'espère que bah, ce podcast aura fait honneur à son titre qui est on ne peut plus présomptueux. Alors, en tout cas, j'espère que ça t'aura fait passer un bon moment. Je te rappelle que Je suis passionnant est un podcast monogame. Je ne le dis que pour toi qui m'écoutes, peut-être dans ton casque, durant ton trajet dans les transports. Bah, j'espère te revoir au prochain numéro. D'ici là, je te souhaite une bonne fin de journée, soirée, selon ton emplacement dans le continuum espace-temps. Oui, si tu écoutes mes autres podcasts, je n'arrive plus à parler. Tu as vu que bah, je me foulais pas trop pour trouver des gimmicks de fin. Mais celle-là, je l'aime bien et je la réemploie. En tout cas, si toi aussi tu es passionnant, n'hésite pas à me le faire savoir en écrivant à flashou@top5.fr. Et puis, eh bien, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes à échanger, à partager autour de ça. Je t'avoue que j'ai pas vraiment d'idée de ce que ce sera. Mais voilà, je lance cette bouteille à la mer. Peut-être que tu auras des suggestions à me faire, des choses que tu veux voir aborder dans l'émission. Dis-moi tout, n'hésite surtout pas. Tu peux me joindre aussi sur le Twitter @FlashSteelers. Et d'ici là, bah écoute, je te re-souhaite à nouveau une bonne fin de journée, soirée, selon ton emplacement dans le continuum espace-temps. À très bientôt!